Bonjour, ici François Nardou depuis les studios du Boulevard. Aujourd'hui, nous sommes en une période de l'année, du temps et de l'automne, le début, la mutation, le basculement du premier automne vers le second, lorsque, au beau temps clair, chaud et sec que nous avons eu jusqu'à la mi-novembre, succède un temps frais, humide et pluvieux, alors que la nature prend ses couleurs de bronze et de cuivre. Nous sommes dans une période qui est favorable à la formation de proverbes guidant les anciens agriculteurs, les vieux paysans du bassin aquitain en général, de tout le Grand Midi et du Quercy en particulier, dans leurs travaux des champs. Alors, la période est celle qui est particulièrement recommandée dans la culture générale de nos régions pour certains semis ou plantations, notamment un semis de blé, de fèves, plantations d'ail et d'oignons. Et des proverbes ont fleuri à ce sujet. L'un qui est en vigueur en Gascogne, mais j'ai l'impression que, vu ce qu'il indique, c'est plutôt la Gascogne au pied des Pyrénées, au pied des monts, comme l'on dit. Alors je vous le dis en gascon, enfin, je l'ai restitué en forme gasconne. Que et bun casaler, aquet que sap que li cau haber semenat era seus habas, en et seus camps, Laurats et ersatz, denan martru ou toutsan, entaha bun granier. Vous allez me dire, est-ce que vous allez me... Déjà que l'occitan languedocien, c'est pas facile, alors l'occitan gascon, n'en parlons pas. Il faut que tout bon agriculteur, casalier, propriétaire d'un casal, le gascon a une syntaxe très particulière. Je dirais en français, tout bon agriculteur sait qu'il lui faut avoir semé ses fèves dans ses champs, labouré en plusieurs fois, comme je disais dans une émission précédente, avant Toussaint, pour remplir de la future récolte son grenier. En pays languedocien, à l'est et au nord de la Garonne, en Quercy, Agenais, Périgord, Albigeois, Toulousain, on dit que c'est entre Toussaint et la Saint-Martin, à la Toussaint et le 11 novembre, qu'il convient d'avoir semé les fèves, le blé, planté l'ail et l'oignon. Ce sont quatre semis, quatre cultures qui vont toujours ensemble. Elles constituent la base de l'agriculture vivrière, traditionnelle, ancienne de nos régions. Aujourd'hui, je vais surtout vous parler de la culture des fèves et, assez curieusement, les conséquences et les effets des mutations technico-économiques sur les sociétés humaines à propos de la culture des fèves. C'est assez curieux, assez prétentieux. N'oublions pas que les fèves, en arabe, au singulier, c'est foul. Au pluriel, c'est foulous. Et c'est de foulous que nous vient l'argot français moderne contemporain, flous, qui désigne quoi? Le blé. Le blé, c'est-à-dire l'argent. Et ça me rappelle ce que me disait un céréalier du pays de Montcuq lors d'une réunion entre céréaliers où j'avais collaboré au sujet du croustillote. Il me disait, François, de nos jours, quand on fait du blé, c'est pour faire de l'argent. Au fond, on rejoignait le sens argotique des mots blé et flous. Alors flous, pluriel de foulous, les fèves, et le blé, l'argent au sens vulgaire du terme. Alors les fèves dans la culture méridionale en général et carsinole en particulier ont un rôle important dans l'imaginaire et même dans la mythologie, et je dirais même dans la mythologie religieuse. Il semblerait que dans nos régions, qui sont très amatrices, très friandes de fèves, du reste, ça a donné des noms de famille, comme Favarel, par exemple, Fabarel, le mangeur de fèves ou le cultivateur de fèves. Il semblerait que dans nos régions, manger des fèves soit un signe de résistance et de volonté d'indépendance. Pourquoi cela? Il faut remonter loin dans le temps. Nos pseudo-ancêtres, les Gaulois, ici ce n'est pas le cas, je ne voudrais pas faire trop d'histoire, mais il faut savoir que la celtisation de nos régions s'arrête à la Garonne. C'est-à-dire que les Gaulois n'ont jamais passé la Garonne. La Gascogne est un pays qui n'a jamais connu de Gaulois. C'est un pays ibère. C'est un pays dont la population a les mêmes racines, les mêmes origines que les habitants actuels de la péninsule ibérique. Au nord de la Garonne, la celtisation de nos régions, Agenais, Quercy, Albigeois, est tardive. Elle n'est effectuée que vers 300 avant notre ère, donc 250 ans avant la conquête romaine. C'est une celtisation tardive, superficielle et relativement brève, qui laissera quand même une empreinte forte dans les mentalités. Rappelez-vous ce que je vous disais dans la dernière émission sur le sens des sculptures de l'église de Saint-Donès. Alors, dans nos régions, la celtisation est tardive. Et pourquoi je vous dis ça? C'est que il faut savoir que, nous le savons par Jules César, ce qu'était l'emprise des druides sur les populations de la Gaule. Emprise extrêmement forte. La même que celle du clergé dans la France d'Ancien Régime. Du reste, la société de la Gaule indépendante était structurée comme celle de la France d'Ancien Régime. En haut, le roi, en dessous, le clergé, les druides, en dessous, la noblesse, les chevaliers dont nous parle Jules César, et en dessous, le peuple. Il semblerait que les Gaulois, dans toute l'ancienne Gaule, du Rhin jusqu'à la Garonne et à la Méditerranée, les Gaulois n'étaient qu'une minorité dominante. La masse de la population étant composée de populations antérieures, beaucoup plus anciennes, présentes dans nos régions depuis le Néolithique, vers 5000 avant notre ère, ou depuis l'âge du bronze, vers 3000. Or, pourquoi je m'étale un peu là-dessus? C'est que voilà, les druides avaient la réputation, dans l'Antiquité, d'être des pythagoriciens, des adeptes des théories du philosophe grec du 6e siècle avant notre ère, Pythagore. Et Pythagore interdisait à ses disciples la consommation de fèves. On peut penser que les druides en faisaient autant. Or, nos régions sont fortement attachées à la consommation de fèves. Alors, l'origine de l'interdit pythagoricien des fèves est assez curieux, il faut le savoir. Pythagore pensait que les fèves, à cause de la forme du grain, qui rappelle celle du lobe de l'oreille, contenaient en dormance l'esprit des défunts, des ancêtres fondateurs, en attente de réincarnation par métempsychose. Et il considérait que manger des fèves, c'était en quelque sorte obliger les esprits des ancêtres à se réincarner, à rentrer dans le cycle infernal des réincarnations successives. Et que pour échapper à cette réincarnation, il convenait donc de ne pas manger de fèves. Nos régions n'ont jamais suivi ce principe et ont toujours été grosses consommatrices de fèves. Ce qui nous le prouve, c'est les fouilles archéologiques, c'est ce que nous disent de la consommation de ce légume beaucoup de documents médiévaux et antiques, où on s'aperçoit que, dans tout le bassin de la Méditerranée, depuis le Proche-Orient jusqu'à nos régions, les fèves étaient un légume extrêmement cultivé et très consommé. C'est resté de nos jours encore l'aliment de base des paysans de la vallée du Nil, des berbères du Maghreb, tout comme il l'a été longtemps des paysans du bassin aquitain et de tout le Grand Sud. Il l'était même jusqu'en Europe du Nord-Ouest. On a des actes latins d'agronomes médiévaux de la vallée du Rhin, des Flandres, du bassin parisien. On a des actes de nature juridique, des contrats de travail, des concessions de terre avec droits et redevances, où sont mentionnés les versements de fèves dus par les agriculteurs aux seigneurs concédants de terre. On sait par les recherches qui ont été faites sur le régime alimentaire de nos prédécesseurs et ancêtres du bassin parisien et des régions rhénanes et des Flandres au XIIe, XIIIe siècle, quelle était la consommation de fèves particulièrement importante. On a pu faire des recherches sur, alors je peux vous citer les documents, ce sont les polyptiques carolingiens, c'est aussi les registres de l'abbaye de Saint-Denis, par exemple, ou des registres comptables d'établissements monastiques des Flandres, où on voit apparaître la fève comme culture particulièrement importante et notamment comme aliment de base servi par les moines des établissements monastiques à leurs travailleurs salariés ou aux corvéables qui étaient tenus de faire certains travaux à certaines saisons sur les domaines du monastère. On s'est aperçu du reste que les moines de Saint-Denis, de Paris, assuraient à leurs travailleurs salariés ou corvéables des repas, des rations alimentaires quotidiennes de l'ordre de 6000, je dis bien 6000, 2 fois 3000 calories par jour, fondées essentiellement sur la consommation de légumes secs, dont de fèves, de chair de porc, de poisson et de fromage. On a donc là, avec la fève, un aliment particulièrement intéressant et important et qui a été longtemps un des gros aliments de base de l'alimentation dans nos régions. Aux archives départementales, dans les statistiques agricoles du département, du Lot, je m'étais aperçu que jusqu'au XIXe siècle, la fève était cultivée pour la consommation familiale. C'était dans le cadre d'une agriculture vivrière, d'autoconsommation. Le blé était cultivé pour la revente, pour la commercialisation et aussi pour faire du pain pour la famille, évidemment. Les fèves ont été surclassées au 19e siècle par les pommes de terre. Il faut savoir que la production de fèves à l'hectare, à l'unité de surface, est plus importante que la production de blé, de même pour celle de pommes de terre. Dans la consommation humaine, le blé a été remplacé par le maïs. On réservait donc le blé à la commercialisation et on préférait manger des plats divers à base de farine de maïs. C'est l'origine de beaucoup de nos recettes de cuisine familiale. Et la fève donc a été la source principale d'apport nutritif dans nos régions pour nos populations anciennes. Alors la fève avait un avantage, c'est que c'est une véritable réserve de carburant et d'énergie par les glucides qu'elle contient et qu'elle apporte au corps. C'est aussi une plante qui apporte beaucoup de protéines, qui favorise la formation du tissu musculaire, donc des protéines. Pourquoi ? Parce que la fève, comme toutes les plantes de cette famille-là, qu'on appelle les fabacées, comme les légumineuses, ont des racines dont les nodosités captent l'azote de l'air et le fixent dans le sol en le transformant en nitrate assimilable par les racines des plantes, après dissolution dans l'eau. Alors la fève intervenait donc en tête de rotation de culture pour apporter au sol l'azote dont ensuite avait besoin la culture du blé. Et en troisième année, succédait à ces deux années de culture une année de jachère ou quelquefois une année de culture par exemple de maïs. La rotation des cultures dans le bassin de la Garonne, dans le bassin aquitain, depuis le XVIe siècle, avec l'arrivée des plantes et légumes venus d'Amérique centrale, c'est d'abord en tête de culture les fèves, qui apportent donc au sol de l'azote, aux cultivateurs une ressource d'énergie et de matière nécessaire à la reproduction de sa force de travail. Ensuite, en seconde année, le blé, et en troisième année, le maïs. Le maïs qui, pour la consommation familiale, remplace le blé. On avait donc avec la fève un élément clé, qui entrait dans le mode de vie des gens de nos régions. Je me souviens d'avoir trouvé un testament des années 1580. Autant qu'ils m'en souviennent, il était peut-être déjà en France. Et non, c'était en Occitan, donc il était encore plus ancien, avant l'édit de Villers-Cotterêts. Ce testament concernait la famille Billiard de Bagat, à côté de Montcuq, qui a encore des descendants de nos jours dans le pays. Et par ce testament, le père de famille constituait un douaire pour son épouse, douaire sous forme de pension alimentaire annuelle que le fils aîné, héritier, puisqu'il était le seul à hériter, les cadets devaient rester comme célibataires sur la propriété familiale, le fils aîné devait assurer à sa mère un douaire sous forme de pension annuelle composé entre autres choses de fèves, de pois secs, d'huile, de sel, de bois. Il y avait donc une forte consommation dans ce domaine-là. Et c'était en quelque sorte, avec le vin dans nos régions, la bière dans l'Europe du Nord, c'était une des grandes bases non seulement de l'alimentation, mais par là même de la cuisine. C'est de là que viennent certaines recettes, comme les fromentées, encore fort coutumières dans nos régions, mais qui ne sont plus connues de nos jours. Les fromentées, ce sont des plats composés de graines de céréales cuites dans l'eau jusqu'à complète cuisson, si vous voulez, et qu'on additionne ensuite ou de sucre, ou de sel, ou de miel, ou d'huile, etc. Et on faisait la même chose avec les fèves, c'est la base, l'origine de certains plats traditionnels de nos régions, comme le murtairol et, par substitution aux fèves des haricots, le cassoulet. Nous allons avoir une petite interruption musicale qui nous permettra de passer à la seconde partie. Je vais vous parler maintenant des fèves dans l'alimentation et la médecine médiévale en Pays d'Oc. Alors, par quoi commencer? On pourrait commencer par la médecine, pourquoi ne pas commencer par l'alimentation? Certains d'entre vous se souviennent peut-être encore de l'émission fameuse en son temps « La caméra explore le temps », réalisée par Stelio Lorenzi et assurée par André Castelot et Alain Decaux. Et dans la série, si on peut dire, dans les quelques émissions qui ont traité des cathares, la fameuse émission sur les cathares qui a eu un succès phénoménal et qui a fait connaître, fait découvrir à beaucoup de téléspectateurs ce qu'était le phénomène cathare. Il y a une scène qui me reste en mémoire où une agricultrice, dirions-nous de nos jours, une paysanne, dirait-on en français, une pazzeso, dirait-on en occitan, c'est-à-dire une maîtresse de maison, une maîtresse de famille, de domaine agricole, qui, comment dirais-je, contrôle bien ses terres et mène bien son ménage, une pazzeso de nos contrées, dévastée par la croisade, la cruzado, croisée catholique, qui agissait pour la gloire de Dieu, pour la sainte foi et pour la paix, soi-disant. Leur premier travail consistait à massacrer les populations et ensuite à brûler les églises où les populations s'étaient réfugiées. Et cette pazzeso de nos contrées, on est certainement en pays de Carcassès parce qu'il va être question d'olivier. Cette pazzeso, le soir, après une rude journée de travail, dit à son mari que pour manger, ils n'ont que des fèves. Et le mari lui répond que les croisés ont tout détruit jusqu'à arracher ou couper des oliviers centenaires. En ces temps-là, les oliviers ne commençaient de produire vraiment qu'au bout de 40 ans. Ils commençaient de donner vers 25 ans, mais la grosse production n'arrivait que vers 40 ans. De nos jours, dans le pays de Montcuq, où les oliviers ont été réintroduits, ils commencent de produire abondamment dès la 5e année après la plantation, au point que les branches cassent sous le poids des récoltes. Et il semblerait donc que les fèves dans nos régions, d'après les documents médiévaux dont je vous parlais tout à l'heure, aient été communément et abondamment cultivées. Notamment, ça m'avait frappé dans la partie qui a été européenne, enfin la partie européenne de la moitié, de l'ancienne moitié occidentale de l'Empire romain, c'est-à-dire l'Europe occidentale essentiellement, mais aussi le Maghreb. Et de nos jours, elle semble ignorer des pays d'oïl. Je me souviens d'un client de la boutique de mes parents, très jardinier, originaire de Lorraine, et qui, passant en septembre-octobre encore là en vacances, voit des sacs ouverts sur la devanture, à l'étalage, et demande à mon père, « Mais monsieur Nardou, qu'est-ce que c'est que ces espèces de haricots que vous avez ?» Et mon père lui répond, « Ce sont des fèves, variété Agua Dulce, Séville et compagnie. » « Ah mon Dieu !» Mon père lui explique comment on les cultivait. Il les cultive au printemps suivant, quand ses voisins ont vu ces espèces de plantes qui poussaient dans son jardin avec ses grosses gousses, ils lui ont demandé quels étaient ces haricots. En Lorraine, on ne savait plus ce qu'étaient les fèves. Alors qu'au Moyen-Âge, nous savons très bien par les documents divers que l'on cultivait des fèves et qu'elles faisaient partie des redevances dues par les paysans agriculteurs, les paysans travailleurs, aux seigneurs concédants de terre, et qu'elles faisaient partie de l'alimentation commune, traditionnelle de ces régions-là et des menus servis par les monastères à leurs travailleurs salariés ou corvéables. Alors la fève est citée souvent dans ces textes anciens sous le nom de faceolus, qui va devenir celui du haricot. Ce qui fait que beaucoup de traducteurs de textes médiévaux, latins, occitans, anglo-saxons, allemands ou autres, traduisent le latin faceolus par haricot, alors qu'il faudrait le traduire par fève. En allemand, la fève c'est bohnen et beans en anglais. Bohnenkraut, c'est le nom de la sarriette, qui est le condiment nécessaire des fèves, car les fèves ont tendance à provoquer des flatulences, et la sarriette évite les ballonnements et les flatulences. En latin, le nom de la fève, faba, avait donné celui du nom d'une famille, d'un clan, de descendants de fondateurs de Rome, le clan des Fabii, le clan des Fabiens, des Fabius. Vous avez un grand personnage de la Seconde Guerre punique, Marius Fabius Cunctator, le temporisateur. Son nom, Fabius, ça veut dire « celui de la fève ». Et les fèves étaient consommées donc tout au long de l'année. Leur culture nous vient du Proche-Orient. Et il semble qu'au Proche-Orient, où est née l'agriculture vivrière à base de céréales, de légumes secs, de fruits tels que les figues et la vigne, et de matières grasses végétales comme l'olivier, au Proche-Orient, la fève pourrait avoir succédé aux premières cueillettes de légumineuses sauvages que sont les vesses, les gesses et même les gousses mûres et sèches d'arbres de Judée. Il semblerait que les populations du Proche-Orient au néolithique, vers 5000 avant notre ère, aient consommé les graines sèches d'arbres de Judée qui passent de nos jours pour être toxiques et vomitives. Or, il se trouve que dans nos régions du Quercy, l'agriculture nous est venue par la Méditerranée et par la péninsule ibérique, soit du Proche-Orient directement par la Méditerranée, soit par l'intermédiaire du Maghreb et de la péninsule ibérique. Et cette agriculture s'est développée dans nos régions, pourquoi ? Parce que tout simplement sur les Corses du Quercy et dans toutes les régions de plateaux calcaires du sud de la France, les derniers chasseurs-cueilleurs du Mésolithique et les premiers agriculteurs retrouvaient un milieu qui était le même que celui favorable à la culture des céréales et des légumes secs au Proche-Orient. Milieu illustré par la présence de pistachiers térébenthes, de rhamnus à la terne, de filires, d'asphodèles, d'asperges sauvages, de sédum et de figuier. Le figuier dans nos régions est spontané. C'est ce qui a permis à ces agriculteurs du néolithique de comprendre que la culture des mêmes plantes et céréales et légumes secs qu'au Proche-Orient était possible dans nos régions. Alors la fève, de fait, est entrée dans nos régions dans la consommation familiale parce que pendant longtemps, elle a permis d'économiser au maximum les récoltes de blé. On préférait mettre le blé en réserve, soit pour faire des stocks, soit pour la revente, et on préférait donc, de ce fait, économiser le blé en mangeant des fèves. Et les fèves, avec de la graisse, de porc ou de volaille, cuites, réduites en bouillie, additionnées de graisse, d'huile, d'ail, de poivre, de sarriette, de roquette. Les fèves sont la base première d'un plat traditionnel pour les célébrations en faveur et en l'honneur des morts de la famille, des trépassés. Ce plat, c'est le murtairol. Et lorsque dans le murtairol, on remplace les fèves par des haricots, ça a donné le cassoulet. Le cassoulet bien traditionnel de nos régions, mais qui a une origine beaucoup plus ancienne. Et le cassoulet apparaît dans une région comme le Mourtairol, qui est illustré par l'existence d'une fameuse école de médecine au Moyen-Âge, l'école de médecine de Montpellier. Et par les recueils de recettes qui nous sont restés de médecins ayant acquis leur savoir à l'école de médecine de Montpellier, nous savons que la farine de fèves était utilisée abondamment, soit comme médicament principal, soit comme excipient. Alors, comme médicament principal, c'était en application directe, comme cataplasme anti-inflammatoire, émollient, résolutif des abcès et des indurations, des congestions. On l'associait également à un usage externe, parce que là, j'oubliais de vous... Oui, c'est toujours un usage externe, évidemment. On l'associe avec des cendres de rhamnus à la terne contre les bronchites et les pleurésies. Cataplasme, donc application chaude, médication par la chaleur, le feu. Tout comme, par exemple, certains agriculteurs que j'ai bien connus de la vallée de la Nègrevieille me conseillaient, contre les douleurs articulaires, l'utilisation de sable de renard, chaud, porté jusqu'à une température telle que le contact devait en être à peine supportable. Même chose avec des cataplasmes chauds de farine de fève, que l'on considérait comme pouvant résoudre les inflammations et les indurations internes. Utilisé donc contre toutes les problèmes de bronchite, pleurésie, affection des voies respiratoires. On pouvait l'utiliser aussi comme excipient de substance principale. On utilisait alors les vertus de la fève en farine pour, par synergie en quelque sorte, assurer une meilleure absorption et une meilleure diffusion dans l'organisme par la peau des substances actives contenues dans d'autres plantes ou d'autres médicaments divers, minéraux ou animaux, tout en évitant, en empêchant si possible, les effets secondaires désagréables ou toxiques de ces plantes principales. C'était par exemple la chose, si on veut éviter les effets irritants de la peau de l'application de pulpe de racines de tamier commun ou d'arômes tachetés contre les douleurs articulaires, plantes qu'il faut éviter de consommer parce qu'elles sont toxiques, mortelles, on pourrait les mélanger avec de la farine de fève pour que celle-ci, en quelque sorte, neutralise les effets révulsifs, les effets qui pourraient provoquer même une eczématisation de la peau. Même chose pour l'utilisation des tiges feuillues broyées de clématite vigne blanche, toxiques mortelles, irritantes, caustiques, qui causent de graves lésions de la peau, toxiques par absorption à travers la peau et par osmose sanguine, et utilisées traditionnellement contre les lombalgies. C'est un remède que je ne vous conseille pas d'utiliser. Il vaut mieux faire une pommade à base de clématite par son pharmacien. On l'utilisait aussi en usage interne. Alors c'était en usage interne une médication anti-inflammatoire des muqueuses digestives, une médication contre les gastralgies, contre l'hyperacidité gastrique. On l'utilisait aussi en cas d'état de maigreur, d'état bronchiteux chronique chez des gens sous-nutris, dénutris. Ce qui pouvait arriver périodiquement lors des crises économico-démographiques de l'Europe ancienne, avant la révolution industrielle de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle. De nos jours encore, la fève est un aliment particulièrement recommandé dans le monde du bodybuilding. Il faut savoir que Schwarzenegger, par exemple, pour vous donner un exemple simple, je dis toujours aux gens qui me posent des questions à ce sujet, si vous voulez devenir comme Schwarzenegger, mangez de la salade de feuilles de consoude, mais également mangez des plats à base de fèves. C'est recommandé en diététique sportive pour les gens qui veulent construire une forte musculature, volumineuse et bien, et surtout solide et durable, que de manger des fèves. Et enfin, il y a aussi un troisième usage, c'est en quelque sorte l'herboristerie au jardin. C'est une tradition bien connue dans nos régions, qu'au printemps, lorsqu'on mange des fèves fraîches, on peut manger les feuilles en salade. Il faut savoir que la fève, lorsque vous la cultivez, quand la floraison s'achève, vous devez décapiter les tiges à deux ou trois feuilles au-dessus de la dernière fleur pour favoriser le grossissement des gousses. Et ces feuilles, on peut les manger en salade, mais on peut aussi, évidemment, on mange plus fréquemment les fèves fraîches additionnées d'un peu d'huile avec du jus de citron, du persil, de la sarriette, de la ciboulette, de la roquette, s'il en reste encore. Au printemps, elle est déjà montée à graines. Et on a remarqué dans nos régions que lorsqu'on les légumes qui sont bons à consommer en avril, mai, juin encore, tels que les fèves, les radis, les laitues, nous assurent des cures de printemps particulières au Pays d'Oc, et cures de printemps qui se traduisent par des nuits de 10 heures de sommeil profond. La fève est un somnifère naturel, comme les radis et comme les laitues. Alors, assez curieusement, la fève est un somnifère naturel à consommer lorsque fleurissent les coquelicots, l'aicamrosos en occitan, qui sont eux aussi des somnifères naturels. Alors, je parle des pétales de coquelicots. N'allez pas mettre en tisane les capsules de graines. C'est trop riche en substances du type opium. Mais mon père avait connu en Charente des gens qui avaient provoqué un empoisonnement grave en mettant en tisane les capsules de graines de coquelicots. Or, il se trouve que les fèves, comme les coquelicots, affectionnent les mêmes types de sols. Sol riche naturellement en phosphate et en potasse. Sol calcique, argileux, ce qu'on appelle des terres forts, plutôt que des boulbènes. Les fèves seraient en quelque sorte la plante type du jardinage quercinois. Nous allons, après une petite interruption, passer à la dernière partie qui traitera des fèves, et tenez-vous bien, dans l'histoire du droit et des institutions. Ça vous paraît curieux, mais enfin, l'historien médiéviste se réveille. En troisième et dernière partie, de vous parler des fèves dans l'histoire du droit et des institutions, et je vais le faire en historien médiéviste, plus encore qu'un jardinier ou qu'un herboriste. Alors, la première citation que nous avons des fèves, la plus ancienne à mon avis, c'est outre les papyrus médicaux égyptiens, c'est l'interdiction qui est faite dans le Lévitique, livre de la Bible, de cultiver des céréales et des légumes secs en culture mélangée, mixte, par strates successives superposées de semis sur la même parcelle. Or, c'est une pratique courante dans tout le bassin méditerranéen et jusque dans nos régions. Ça illustre bien le caractère particulièrement discriminant des règles du Lévitique qui visent à singulariser le peuple hébreu dans l'ensemble du monde méditerranéen. Et les fèves sont aussi, dans nos régions, l'objet de réglementations dans les chartes de coutume. Je pense à la charte de coutume de Montcuq, à celle de Lozerte, à propos des farines, du droit de moudre, de la fabrication du pain. C'est un légume, la fève, qui est frappé d'une dîme sur les produits du potager. Il faut savoir que dans l'Europe ancienne, les terres immédiatement adjacentes à la maison de famille, à l'oustal, le jardin potager, étaient ces terres et leur production exemptées de dîmes. Mais les synodes et conciles médiévaux avaient obtenu des seigneurs hauts justiciers de reconnaître le droit pour l'Église de prélever des dîmes sur les productions potagères. Et à Montcuq, j'ai des actes du XVe siècle, en latin comme en occitan, concernant le curé recteur de Saint-Hilaire de Montcuq, par lequel il est reconnu à celui-ci le droit de prélever des légumnaces et des carnalaces. Alors, ces légumnaces et ces carnalaces concernent quoi? Ce sont des prélèvements au taux de 10%, peut-être même moins de 10%, sur notamment les légumes secs, ainsi que sur les productions de ce qu'on appellerait de nos jours des confits, si vous voulez, des viandes mises en conserve dans la graisse, volailles et cochons. Mais également sur les volailles vivantes et peut-être même les cochons vivants. C'était la même chose sur les légumes du potager, notamment les légumes secs. Au fond, ce que l'on cherchait, c'était à permettre au curé et recteur de la paroisse de se constituer une réserve d'aliments riches en glucides, en lipides et en protéines. Une alimentation certainement déséquilibrée dans le sens des glucides et des lipides, comme dans toute la Méditerranée ancienne. Alors que l'Europe du Nord et du Nord-Ouest privilégiait plutôt les alimentations riches en protéines et en lipides, cause de beaucoup de problèmes de santé cardiovasculaire dans l'Angleterre actuelle, me disait une ancienne cliente qui était infirmière dans un hôpital anglais. Et manger des fèves, cultiver des fèves est donc un élément illustrateur de nos sociétés et des institutions et des règles de vie qui les encadraient. Je vous disais tout à l'heure que les druides pythagoriciens avaient interdit aux Gaulois la consommation de fèves, alors que la Gaule, devenue France au Moyen-Âge, a été un pays grand consommateur de fèves, et que nos régions le sont toujours restées. Ça me ferait donc dire qu'il y a peut-être là, de la part de nos ancêtres et prédécesseurs, la marque non seulement d'une résistance à l'enseignement des druides, mais même d'une résistance à la celtisation. Je vais entrer dans une vision des choses qui va vous paraître un peu particulière. Il faut en revenir à ce que nous savons par les travaux et recherches de certains historiens, notamment de l'école de Claude Gagne-Bé, qui se réunissent dans le cadre de la Société de mythologie française. Et je pense à ce sujet à mon collègue et néanmoins ami Dominique Pauvert, qui se livre à des recherches approfondies sur la mythologie du carnaval, de l'ours, de la Saint-Martin et de Saint-Blaise. Et sa thèse sur la littérature de la fin du Moyen-Âge et du début de la Renaissance, Rabelais, Jérôme Bosch et Bruegel, se retrouverait dans ce que je crois pouvoir dire au sujet de tout ce qui tourne autour des fèves. Alors les traditions du Quercy, et pas que du Quercy, de tous les Grands Sud, veulent que toute naissance d'un enfant cause la mort d'un ancien, destiné à devenir un ancêtre tutélaire, un protecteur à craindre et à vénérer, un saint fondateur. C'est le retournement de l'idée que tout nouveau-né est la réincarnation d'un ancêtre fondateur, de ce même ancêtre comme protecteur de la lignée, de l'oustal. Or, le rôle de protecteur de la lignée, de l'oustal, est aussi incarné par la mère de famille. Au fond, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à transmettre les souffles, les esprits des ancêtres. C'est-à-dire que la mère, engendrant des enfants, leur transmet les souffles des ancêtres, les esprits des ancêtres, alors que le sang est transmis par le père. Dans la mythologie ancienne de toute l'Eurasie et du Proche-Orient, le sang est le siège de l'âme, alors que le souffle de la respiration, ce serait l'esprit. Ce serait un fluide, si vous voulez, invisible, que l'on retrouverait dans l'eau, qui a coulé du flanc du Christ, crucifié, percé du coup de lance du soldat Longin sur la croix. Eau qui coule du flanc du Christ et que l'on retrouve dans toutes nos sources sacrées du Quercy blanc, Saint-Jean-le-Froid, Rouillac, Saint-Pantaléon et autres. Les souffles des ancêtres Ce sont donc en quelque sorte la forme invisible du fluide matériel qu'est l'eau. Et les fèves seraient en quelque sorte l'élément, l'aliment qui permettrait la réincarnation des ancêtres et la réincarnation et la transmission de leur souffle. Manger des fèves lors de certains rites en faveur des ancêtres, de certains rites liturgiques, je pense au repas du jour des morts, plutôt qu'à celui de la Toussaint, au repas des funérailles, ce qu'on appelle les noces tristes, au repas des grands services de février, qui devaient être achevés au plus tard pour le 22 février, dans nos régions catholiques, des confins des pays de Lozère et de Montcuq, il fallait que les grands services soient finis le 22 février. Pour quelle raison ? Fête de la chaire, c'est-à-dire de la cathèdre, du trône épiscopal de Saint-Pierre, certes, mais surtout, dans la Rome antique, l'ancienne Rome, c'était la date ultime à laquelle les Romains devaient avoir célébré les rites en faveur des ancêtres de la famille. C'était les Lemuria. Et lors des Lemuria s'achevait la période du culte des morts. À Athènes, c'était les Antesteri, c'est-à-dire les fêtes des fleurs. La floraison des violettes à Athènes commençant dès février, comme dans nos régions. Antesteri, qui durait 3 jours, et au terme des 3 jours, pendant la nuit, le père de famille se levait, marchait à reculons vers la porte de la maison, en jetant derrière lui des fèves, et en disant « Dehors l'équerre, fini les antestéries ». Donc les fèves sont, si vous voulez, le légume qui, dans la mythologie ancienne, recueillait les esprits des ancêtres. Et on voit donc que ce rôle des fèves se traduisait dans les structures de la société par l'exaltation du rôle de la mère de famille, l'ustaliero, la maestresso de l'ustal, qui était chargé de transmettre à ses enfants les souffles des ancêtres. Ça explique pourquoi dans nos régions, Pyrénées, Gascogne, particulièrement ibérique, ce sont les filles aînées qui héritent du domaine familial, du casal. Parfois, en Gascogne, ce sera aussi le fils aîné. Les cadets n'ont pas le droit de succession, ils restent comme célibataires sur la propriété. C'était le cas de la famille Billard à Bagat au XVIe siècle. Mais il n'y avait pas que, c'était toutes les familles du pays. Tous les registres notariés des notaires de Montcuq que j'ai pu transcrire pendant des années aux archives me le prouvent. Il n'y a que l'aîné qui hérite, les cadets restent sur la propriété, ils sont nourris, évidemment logés. Ils travaillent pour le bénéfice de l'aîné et ne perçoivent rien, ne perçoivent que quelques dons de la part de leur père. Ils sont héritiers à titre de substitution. C'est donc là, si vous voulez, le rôle de la mythologie de la fève va jouer à plein quant à la structuration de la société. Et cette mythologie met en valeur certaines dates et certains lieux du pays. Alors je pense notamment pour cela aux fameuses foires de Marcillac, commune de Saint-Cyprien, ancien canton de Montcuq, qui était une foire aux bœufs de labour, au vin nouveau, l'oubi burrut, aux châtaignes, là, les castagnos, lors des Despelucados d'octobre-novembre. Cette foire aux bœufs de labour de Marcillac se tenait devant le château, ou même dans la cour du château, près d'un bois qu'on appelait le Bosque del Luc. Or le Luc, qu'est-ce que c'est? Le Lucus, c'est un bois sacré. Et à proximité se trouvait un pêche dit Argan, du gaulois Argantos, lumineux, le monde de lumière. Une légende locale veut que Marcillac soit en secrète relation avec la tour de Montcuq, le Drumnion, comme dit la chanson de la croisade. En latin médiéval, c'est Dunio, qui vient directement du gaulois Dunium, qui désigne une hauteur sacrée. Dans la tour de Montcuq, le donjon, si vous voulez, le Dunio de Montcuq, c'est une hauteur sacrée. Et ça fait donc, en quelque sorte, des rites en l'honneur des trépassés, des rites de protection du pays. Ce n'est pas sans intérêt quand on sait qu'à Montcuq, les axes majeurs des ouvertures vers le sud-est indiquent, si on trace une ligne droite vers le sud-est, indiquent le point exact où, le matin de la Saint-Martin, 11 novembre, entrée dans l'hiver, se lève le soleil, juste face à la tour de Montcuq, dans l'axe de la porte du donjon. Ça fait donc de ce lieu un haut lieu sacré, protecteur du pays, en rapport avec Marcillac, avec le Touron, et pour la Saint-Martin d'hiver. Saint-Martin qui est la date clé où les semis de fèves doivent être achevés, et qui est une date clé de circulation des âmes des morts, de circulation des esprits. On retrouverait donc, à travers l'imaginaire quercinois de la fève, toute une mythologie oubliée, évidemment, mais qui reste présente dans le paysage à travers les édifices médiévaux et, je dirais, à travers les proverbes et les traditions de l'automne, du mois de novembre et des fêtes de la Toussaint et de la Saint-Martin, jusque vers la Sainte-Catherine. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Après avoir tenté, vaille que vaille, de vous exposer la complexité d'un sujet qui, au début, pouvait paraître très simple, je vous donne donc rendez-vous à la prochaine fois dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et évitez, avec cette saison froide qui s'annonce et humide, évitez d'attraper mal. Vous avez toujours des tisanes pour vous soigner. Merci, à la prochaine fois. La 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 la